Pain d'espérance. Rencontre avec ceux qui se lèvent pour suivre l'appel du pape en cette année jubilaire.
Bonjour et bienvenue dans Pèlerin d'espérance, en cette année jubilaire où l'Église nous invite à tourner les yeux vers celui qui ne nous déçoit jamais aujourd'hui, un témoin revenu de l'enfer. Georges a 29 ans, il a connu les ténèbres, du désespoir, les chaînes de l'addiction, la violence et des hospitalisations psychiatriques à répétition, presque une centaine, une vie brisée, pourrait-on croire, et pourtant tout a changé. À Pâques 2024, Georges a reçu le baptême, il a rencontré Jésus et cette rencontre a tout renversé. Aujourd'hui, il vient nous parler, non pas d'un miracle spectaculaire ou extraordinaire, mais d'un relèvement lent, parfois douloureux et profondément incarné. C'est un chemin de résurrection au cœur même de la nuit. Bonjour Georges Delery.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté cette invitation pour Pèlerin d'espérance, plein d'espérance aussi. On va découvrir dans votre témoignage. Georges, pouvez-vous nous raconter dans quel état d'esprit vous étiez au moment de cette rencontre avec le Christ, voilà, qui sera bien sûr un chemin de résurrection dans un mouvement de vie aujourd'hui. On vous écoute et merci.
Donc, dans quel état d'esprit j'étais lors de ma rencontre avec le Christ? Il y a un avant et il y a un après, en fait. Donc il y a vraiment un chamboulement. C'est-à-dire, déjà, avant de rencontrer le Christ, j'en avais déjà un petit peu entendu parler, vite fait, mais ça ne m'intéressait plus trop, en fait. C'était genre, j'avais mis ma Bible de côté, le chapelet, ça ne m'intéressait pas trop. Et en fait, j'étais dans un état d'esprit où en fait, j'étais dégoûté. En fait. J'étais dégoûté dans le sens où il y avait beaucoup de problèmes qui tombaient sur moi. Et en fait, c'est un peu comme si ma vie s'écroulait en fait, devant moi. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a comme eu une sorte de cri intérieur, en fait, ou une prise de conscience. On voit, voilà, il y a le juridique, il y a la santé, la famille, il y a les amis, il y a ceci... Tout bascule et il y a comme un cri qui fait qu'en fait on se tourne vers Dieu. Et le jour, je m'en souviens très bien, où j'ai rencontré ce Dieu dont on me parlait et qu'il s'est manifesté en moi, en fait, il y a eu un basculement, mais vraiment, quand je dis d'une seconde à l'autre, c'est d'une seconde à l'autre. C'est-à-dire que je me mettais d'un coup à louer, en fait, et à danser. Il faut savoir que ce jour-là, en fait, j'étais chez ma famille, en fait, et ils ont vu ce basculement. Donc, ils m'ont pris, on va dire, je pense, pour un fou, au point où finalement, j'ai une petite anecdote, je ne sais pas si je l'avais sortie, mais ils ont voulu appeler les ambulances, les urgences, quoi. Donc, il y avait eu une sorte de choc, une grosse transition, et moi, personnellement, j'étais genre heureux, en fait. J'avais l'impression de vivre quelque chose de l'ordre, ouais, je peux dire, du surnaturel. À cette époque, j'avais pas l'habitude d'être heureux, j'avais pas l'habitude d'être aimé, et j'avais pas l'habitude de savoir que quelqu'un m'aimait. Donc forcément, quand j'ai appris ça, quand je l'ai senti, quand je l'ai vécu, bah, je l'ai pris, interprété en tout cas comme quelque chose de surnaturel, quoi. Alors que c'est quelque chose qui est naturel. On le mérite tous, ce genre de choses.
J'ai annoncé que vous avez reçu le baptême récemment, c'était Pâques dernier. Qu'est-ce que le baptême a représenté pour vous? Et puis finalement, ce jour du baptême, et puis l'après-baptême, quelques mois plus tard, Georges.
Alors pour moi, ça représentait la miséricorde. La miséricorde, pardon. Souvent, on voit le baptême comme une résurrection, donc un renouveau, ce qui est totalement vrai. Et c'est très fort, parce que arrivé à l'église... On ne s'en rend pas compte au départ quand on fait cette démarche de catéchuménat, mais arrivé au jour J du baptême, on s'avance à l'église, on voit parfois notre famille ou nos amis ou des personnes qui nous ont accompagnés. On s'avance et au moment où on reçoit l'aspersion, on se tourne et il y a comme un changement, en fait. Il y a comme un changement qui s'opère. Et moi, je me souviens, ce qui s'est passé dans mon cœur, c'est que, arrivé à la communion, j'ai reçu le mot miséricorde. Et, en fait, miséricorde, c'est un mot qui est pas anodin, qui est très puissant en fait dans le Christ. En tout cas, moi, ce que ça m'a révélé, c'est que j'avais été pardonné entièrement. Et donc, mes larmes coulaient, arrivées au baptême, enfin, arrivées étant baptisé, mes larmes coulaient complètement, quoi. Je ne pouvais plus m'en empêcher.
Donc, c'est une forte expérience de la miséricorde, ouais. qui s'est vécue. Je crois que vous avez un projet. Vous en êtes où, si je peux vous conduire un peu cette interview, autour d'un livre, Misère et corde, qui est en cours d'écriture. Est-ce qu'on peut vous interroger?
Tout à fait.
Le projet tient toujours. Est-ce que vous avancez dans ce projet d'écriture? Et au fond, qu'aimeriez-vous transmettre à travers cet ouvrage?
Alors, ouais, le projet, il est encore... Il est encore en travail. Alors là, j'ai fait mon premier jet. Donc, c'est-à-dire, je vais tout revérifier, peut-être même réécrire un petit peu pour refaire. Et voilà, j'attends également d'avoir un meilleur ordinateur parce que le mien, il commence à me lâcher un petit peu. Bon, en tout cas...
Priez Saint-Joseph pour la Sainte Providence. Ouais. Voilà. Quel message aimeriez-vous transmettre, Georges, à ceux qui se sentent aujourd'hui peut-être dans un tunnel sombre, noir et plein de désespoir, dans la tristesse et peut-être aussi certaines addictions, et on ne peut pas sortir de ces addictions, ces addictions que vous avez, on ne rentre pas dans les détails de votre témoignage, mais que vous avez connues fortement dans le passé. Un mot?
Peut-être quelque chose comme ça qui me vient dans le cœur, c'est que on traverse souvent, même tout le temps, des phases difficiles, des phases plus ou moins de galère et tout ça. Donc mon frère, ma sœur, si par exemple ça arrive que tu tombes sur une grosse galère, là je vais te dire un truc, par exemple, tu perds ta copine, ça fait 3 ans que t'es avec. Hein. Moi ça m'est arrivé, c'est pour ça que je le dis. Tu perds ta copine, 3 ans t'es avec, et là, il y a comme une brisure qui se passe. T'as deux choix. T'as le choix de soit essayer de voir quelqu'un pour te faire aider, avancer, voir des amis, mais des gens sérieux. Soit tu fais le choix, ce qui peut arriver, de choisir le côté sombre. Et dans ce cas, ouais, tu vas toucher à plein de trucs. Tu vas commencer à t'énerver peut-être. Peut-être tu vas te sentir mal, tu vas essayer de remplacer ce bien que tu avais peut-être ou que tu n'as pas eu par autre chose qui va te faire du mal. Alors ça peut être l'alcool, ça peut être l'abeu, ça peut être ce que tu veux, ça peut être la pornographie, ça peut être les écrans, ça c'est hyper tendance en ce moment, scroller sur les écrans, passer ses journées sur le canapé et se rendre compte le soir, qu'est-ce que j'ai foutu de ma journée, j'arrive même plus à dormir maintenant. Donc peut-être... essayer de prendre un petit temps et de dire, bah, est-ce que déjà j'ai des personnes qui peuvent vraiment me pousser vers le haut autour de moi? Peut-être essayer de saisir une opportunité qui peut se présenter à toi, voire faire la part des choses et ne pas hésiter à appeler à l'aide en tout cas.
Qu'est-ce qui nourrit vous, Georges, en étant cette année et ce jubilé de l'espérance? Donc, restons dans ce mouvement aussi de vie, debout. Qu'est-ce qui nourrit votre espérance aujourd'hui, Georges? Je vois que vous avez le sourire. Quelle est votre espérance à communiquer sur les ondes de nos radios chrétiennes? Merci.
Moi, c'est ma seule et unique espérance. Ça reste quand même la sainteté, donc le cheminement. Mais ça, pareil, on pourrait en parler des heures.
Et des heures et des heures.
Et des heures et des heures.
Nous n'avons qu'un pèlerin d'espérance de 12 minutes aujourd'hui.
Ouais. En tout cas, la sainteté, ça reste... C'est pas si compliqué qu'on le croit. C'est pas, je veux dire, Saint-Augustin et tout. Non, c'est vraiment le chemin qu'on emprunte pour rejoindre le Christ, pour rejoindre son royaume. Et cette espérance, en fait, c'est... de voir que chaque jour, le Seigneur a quelque chose, là où il veut m'amener, là où il veut amener les autres, a quelque chose qui fait grandir dans ce monde. Et mon espérance, c'est bien sûr le ciel. Et le ciel, on peut déjà commencer à le construire sur cette terre, on va dire. En tout cas, le Seigneur nous aide à cela.
Quelqu'un qui vous écouterait, ou quelqu'un qui, dans son entourage, a perdu tout espoir de guérison ou de relèvement, et au fond, on parle d'espérance dans ce jubilé de l'espérance, mais ne croit plus du tout pour lui à sa propre guérison. Il croit à la guérison pour autrui, des autres, mais pas pour la sienne. Que dire, hein, ou que dire peut-être à des parents ou des grands-parents qui ont des petits-enfants ou des parents qui ont des enfants qui sont gravement atteints par différentes addictions?
Il y a quelque chose qu'un ami m'avait envoyé, m'avait dit une fois. Il m'avait parlé de du dernier cheval sur lequel on aurait misé, quoi. Moi, c'est vraiment ça qui me vient là. Et c'est dingue de se dire, voilà, bon, même moi, je crois même pas en ma propre guérison, je crois pas. Et peut-être que même les autres n'y croient même plus. Et moi, j'ai un ami qui m'avait sorti ça, c'est le dernier cheval sur lequel on aurait misé, tu sais. Celui qui remporte la course alors que c'était le tout dernier, ça se trouve, le cheval, il est tombé par terre et tout, les gens, voilà, on n'y croyait pas. Et en fait, c'est lui qui remporte la course. Bon, en fait, si ça se trouve, c'est toi. Donc, garde courage, et je sais ce que c'est de ne plus rien même ressentir et de se dire c'est perdu. Mais si ça se trouve, ce sera toi le dernier cheval sur lequel on n'aurait pas misé au départ. Donc voilà, sois béni, et évidemment, il y a toujours des personnes, hein, que tu connais sûrement pas qui prient pour toi dans le monde.
Dernière question pour ce pèlerin d'espérance aujourd'hui. Georges Delery, si vous deviez définir l'espérance en une phrase ou une image, ça serait quoi pour vous?
Alors là, ça, j'ai réfléchi, mais parce qu'il y a beaucoup de choses.
Spontanément,
en fait.
Spontanément. Oui, restez spontané.
Moi, j'y vois vraiment comme un chemin. Enfin, en image, en tout cas, j'y vois comme un chemin au départ qui est sombre, tortueux un peu, et qui devient de plus en plus lumineux, comme un soleil, en fait. Enfin, alors, en fait, on rejoint un soleil, et plus on avance, et plus le chemin s'éclaire, en fait, et plus on voit un petit peu autour de soi à quel point finalement le chemin n'était pas si sombre que ça, mais qu'il y avait des choses autour de nous, en fait. Et en un espoir, moi je dirais, en une phrase, je dirais que l'espérance, c'est un chemin, en fait. C'est pas un lieu, c'est pas non plus un fait, c'est pas non plus une date, c'est pas non plus... L'espérance, c'est un chemin, ça se fait tout au long d'une vie, en fait. C'est quelque chose, une route qu'on emprunte, et ça n'y a ni la date, ni heure, ni lieu, ni personnage, ni contexte, ni je ne sais quoi. Voilà.
Merci infiniment d'avoir participé à ce pèlerin d'espérance, et puis nous vous souhaitons, et nous souhaitons à chacun des auditeurs aussi, un beau chemin en ce temps du jubilé de l'espérance.
Au revoir, soyez remplis d'espérance.
Au revoir et merci.
C'était Pèlerin d'espérance, une coproduction des radios chrétiennes associées.